What's up, c'est Axel
et Baptiste
et vous écoutez le
PUBS. Dans ce deuxième épisode du PUBS, on va d'abord écouter Lila qui va nous parler du pôle vie étudiante à là-dessus. Ensuite, on va vous parler de la SAS organisée par là-dessus. Et enfin, pour la partie interview, on a parlé avec Fayrouz et Mohamed de la filière dentaire. Allez, bon épisode.
Salut, salut, c'est Lila, votre VPVE cette année. VPVE, ça veut dire vice-présidente chargée de la vie étudiante. Je m'occupe donc de votre bien-être. Et donc ça passe par des welcome packs, des sorties, des goûters, du parrainage et plein d'autres projets qui ont déjà été commencés en début d'année et qui vont continuer pour la suite. Donc pour résumer, je suis vraiment là pour essayer d'améliorer en dehors des cours vos années en accès santé et vous dire prenez soin de vous. Donc là, je vais vous souhaiter bon courage et vous faire plein de bisous pour la suite. Donnez tout, ça vaut le coup.
Si vous n'avez toujours pas pris votre place pour la SAS, ouvrez bien vos mirettes.
Ouais, pour moi, la SAS, ça va vraiment aider à décompresser et surtout à se mettre une énorme race juste avant le S2.
Pendant la SAS, vous allez pouvoir découvrir tout l'univers des pins. Et en plus, celui de cette année, il est trop stylé et vous allez pouvoir la voir en allant parler avec les P2.
La SAS, vous allez voir, c'est votre première soirée santé. Le mood, il est incroyable. Vous allez boire dans des gourdes. Les vieux, vous allez voir, ils ont vraiment des outfits hyper stylés. La musique, elle est trop bien. Franchement, vous allez vraiment kiffer. Genre, venez.
Et surtout, ça sera le moment pour vous de pécho votre crush de la BU.
Alors, ça vous a donné envie? Vous avez toutes les informations sur le site de la Dessup pour prendre votre place. On vous attend nombreux. Donc là, on est avec Fayrouz et Mohamed, deux étudiants en quatrième année d'Odonto, et vous répondez à nos petites questions. Je vous explique juste comment l'interview va marcher. En gros, je suis allé interviewer des P1 à propos de l'odontologie, et qui est dentaire, et j'ai fait écouter ces enregistrements à Fayrouz et Mohamed, et ça servait un peu de base pour l'interview. Voilà. Donc on commence par le premier enregistrement.
Ce qui me chagrine, enfin, si je devais devenir dentiste du jour au lendemain, c'est de faire peur aux enfants.
Bon, est-ce que pour vous, genre, vraiment, être dentiste, c'est un métier qui fait peur?
C'est sûr que les enfants, ils sont pas très contents quand ils viennent nous voir. Mais alors déjà, on va dire à 60% des cas, c'est à cause des parents. Parce qu'eux-mêmes, des fois, ils ont peur du dentiste. Du coup, ils évacuent un peu cette peur sur les enfants. Mais surtout, il faut oublier que nous, on appréhende beaucoup le fait d'accueillir des enfants parce que forcément, c'est des soins longs. Pas agréable, mais il faut que les parents comprennent qu'il ne faut pas effrayer les enfants pour aller chez le dentiste.
Est-ce que genre, c'est plus dur de soigner un enfant qui a peur et qui est dans l'appréhension et tout que...
Oui, beaucoup, parce que bah, des fois, tu es obligé de reporter les soins, tellement le petit il est agité et tout. Et du coup, ça chamboule tes rendez-vous, ton planning, et ça, c'est des choses que tu ne peux pas prévoir.
Et pareil, juste le fait qu'un enfant accepte d'ouvrir la bouche, des fois, ça peut prendre du temps. Du coup, souvent, il faut qu'on mette l'enfant, par exemple, sur les genoux de ses parents et ensuite qu'on saisisse l'occasion vraiment qu'on soit à plusieurs pour ouvrir la bouche de l'enfant et pour qu'on puisse voir les dents. Et souvent, on se contente d'une seule fois pour voir la bouche de l'enfant et une radio si on réussit à en faire une. Donc, c'est compliqué. Et les enfants, souvent, ils ont un peu peur de venir nous voir. Après, par exemple, quand on a fait le service sanitaire dans les écoles, les enfants, ils n'avaient pas vraiment peur de nous quand on leur disait qu'on était des dentistes, tout ça, quoi. Ils étaient plutôt contents qu'on leur apprenne à se froncer les dents et tout. Donc je pense que c'est vraiment quand ils sont à l'hôpital et qu'il y a les parents, que les parents sont stressés pour leur enfant.
Ouais, les trucs, tout est blanc, les blouses,
voilà,
et tout,
c'est ça, il y a beaucoup de personnel. Surtout à l'hôpital, on peut se retrouver à trois personnels dans le box avec l'enfant qui est des fois seul ou bien avec le parent. Donc c'est sûr que c'est déjà un environnement stressant. Mais il faut poser sa voix, être calme en parlant, utiliser du vocabulaire très simple, genre dire carie, bon ok, mais genre dire des microbes, tout ça, voilà.
Ok, ouais, simplifier au max.
Oui, vraiment.
Enregistrement suivant.
T'auras des vieux ou des enfants qui se lavent pas forcément les dents, et être à proximité de ça, c'est pas très attirant pour moi. Mais après, je suis sûre, il y a plein de trucs, hein. Mais j'admire les gens qui le font. Les gens qui le font, voilà.
Bon, ok, l'hygiène, là, c'est parti.
Ah ouais, bah alors, ok, sujet sensible. Alors déjà, ça va, on a un masque, des gants. Bon, ça va, on n'est pas en contact direct avec l'hygiène du patient. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même de comprendre comment il en est arrivé là et ensuite de prendre en charge au mieux le patient. Et après, c'est très satisfaisant de voir l'évolution, de voir par exemple au deuxième ou troisième rendez-vous que hop là, il ouvre la bouche, c'est propre, il y a moins d'inflammation, moins de saignement et tout ça. Voilà, après, j'avoue que des fois, il y a des patients... c'est abusé et que là il faut vraiment rester, il faut prendre son calme, prendre sur soi et ne rien dire et souffler à la fin.
Est-ce que on peut genre renvoyer un patient se laver les dents parce que c'est trop sale?
Après, nous, souvent, toutes nos thérapeutiques, même si le patient il se brosse les dents, parce qu'en fait la majorité des gens se brossent les dents au moins une fois ou deux fois par jour. Mais souvent, en fait, ils n'ont juste pas la bonne technique. Donc nous, la majorité du temps, parce qu'à l'hôpital, ça prend vraiment du temps, et on a aussi le temps de leur montrer. Donc en fait, la première chose, c'est qu'on leur montre comment se brosser les dents, on leur montre comment se passer les brossettes interdentaires. Et on voit quand même une évolution au bout de plusieurs séances de leur état dentaire. Donc je pense que c'est juste souvent le fait qu'ils ne savent pas comment faire. Et le fait qu'on leur ait jamais dit ou qu'on leur ait dit quand ils étaient enfants et là ils ont 50 ans, donc forcément entre-temps ils ont oublié quoi.
Ouais. Ok, et genre ça va être quel type de patient qui va avoir les dents les plus, les plus dures en termes d'hygiène ou... Est-ce que les plus jeunes ou c'est les plus vieux ou c'est...
Alors généralement c'est les personnes âgées mais qui ont un manque de dextérité. Par exemple moi typiquement j'ai un patient... à mobilité réduite, qui a un manque de dextérité au niveau de la main. Pour lui, c'est très compliqué de tenir un manche de brosse à dents. Donc en fait, il faut s'adapter. Il faut avoir une brosse à dents avec un gros manche, soit une brosse à dents électrique, ou bien même il y a des manches qui peuvent se mettre. Et là, on peut voir de l'évolution au niveau du brossage. Mais aussi, il y a des patients, d'ailleurs le même, qui me disent qu'en fait, des fois, ils ne se brossent pas parce que ça saigne. Mais en fait justement
il faut que ça saigne
pour réduire l'inflammation et ça il faut le comprendre et je lui dis bon c'est pas grave crachez le sang enfin vraiment évacuez tout ça brossez-vous même si ça saigne beaucoup mais à la fin vous allez voir une amélioration et vous continuez comme ça.
Mais du coup sur le truc de la brosse à dents il a genre une énorme brosse à dents?
Alors non c'est pas le bout
c'est pas la longueur
c'est vraiment le manche. Le manche c'est un manche en mousse et c'est pas mal.
Ok. Petite question absurde.
Non, mais bonne question. Non, mais vraiment, oui, parce que quand on le voit pas, bah, on peut pas forcément savoir, quoi.
Suivant.
Bah, du coup, moi, je veux faire odonto parce que je trouve qu'en termes de responsabilité, il y a moins d'impact qu'en médecine et que du coup, c'est moins de pression.
Alors, au niveau des responsabilités, en fait, on a moins de choses à gérer parce qu'on est quand même assez limité à la sphère orale. Après, il ne faut pas oublier que du coup, nous, on est quand même dentiste, mais donc on est aussi anesthésiste parce qu'on va anesthésier. On fait aussi les radios. Et donc, on est aussi un peu chirurgien, quoi. Enfin, chirurgien et restaurateur des dents. Donc, c'est moins de responsabilité parce qu'il y a quand même peu de cas où il peut y avoir de graves complications avec les dents. Mais il n'empêche qu'on a quand même pas mal de choses à penser et... C'est pas vraiment la même approche qu'en médecine parce que là il y a aussi l'approche au niveau de l'argent et ça joue beaucoup chez les gens. Il y a beaucoup de personnes qui renoncent aux soins dentaires à cause de l'argent. Donc on n'a pas la même responsabilité mais on n'a pas non plus la même approche.
Par exemple des choses bêtes entre guillemets mais il faut connaître le patient par cœur, son dossier médical, ce qu'il prend comme des médicaments, les maladies qu'il a. Tu vas pas extraire une dent comme ça si ton diabète il est pas équilibré. Le mec il a une hypertension à 18, tu vas rien faire. Si tu fais une extraction et que tu n'as pas vu ses paramètres, là, tu peux mettre en danger le patient. C'est pas rien, même pour les radios, il faut, si c'est une femme, il faut voir si elle est enceinte. Il y a plein de petits trucs comme ça. C'est dentaire, c'est pas vraiment, t'as pas la santé, la vie du patient entre tes mains, mais en tout cas, t'as ta santé et tu peux avoir de gros impacts si tu fais pas les choses correctement et que tu t'apprends pas bien à connaître ton patient. Donc, c'est des tout petits trucs comme ça qui peuvent t'amener à des cas graves.
Next.
Quand tu veux travailler dans la santé, mais en même temps pas trop te fouler, même s'il faut faire la passe avant, mais quand même, Et que tu veux brasser de l'argent de fou. Parce qu'en vrai, en dentaire, la plupart, tu gagnes de l'argent de fou. Et la plupart le font pour ça, même s'il faut bien taffer avant.
Alors...
Vas-y, c'est ton moment, là.
Alors, dentaire, c'est bien si tu veux pas faire de très longues années d'études. Genre, tu peux t'arrêter à 6 ans. Pas trop de foulée, tu seras obligé d'y aller à l'externat, au moins, parce que là, tu vas devoir lier... les cours plus l'hôpital, là c'est, on est vraiment là-dedans et c'est pas drôle. Genre vraiment, c'est vraiment pas drôle. Voilà, donc que ce soit médecine, enfin n'importe quelle filière, hein, il y a du boulot. Après, c'est vrai que bon, tu peux sortir à 24 ans, docteur, c'est pas mal. Après, argent, on gagne bien notre vie. Après, pour moi, un dentiste, ça gagne tout aussi bien qu'un médecin installé en libéral. Enfin, peut-être que c'est pas vrai, mais pour moi, c'est... Enfin, par exemple, un anesthésiste, ça gagne beaucoup mieux qu'un dentiste, tu vois. Mais par contre, si tu veux vraiment gagner beaucoup d'argent, bah, tu peux faire orthodontiste. bah, là, il faut faire l'internat et c'est 3 ans en plus. Mais après, t'es bien.
Mais en vrai, vous, ça a été une motivation, du coup ? Genre, vous vous êtes dit, bon, vas-y, odonto. Bon, dans tous les cas, je sais que je vais gagner de la thune, donc c'est parti, genre.
Bah, moi, à l'origine, je voulais médecine. À la toute fin, je me suis dit que... Enfin, au fur et à mesure du S2, je me disais, bon, est-ce que je veux vraiment médecine ? Et juste avant la fin des oraux, je me suis intéressée à la dentaire. Je me suis dit que c'était quand même pas mal. Moi, ce qui... Enfin, c'est vrai que c'est un facteur à prendre en compte parce que en soi, on sait qu'on va être quand même bien payé. Et surtout, il y a un truc à prendre en compte, c'est que en fait, on gagne plutôt bien d'argent et surtout, on ne travaille pas tous les jours parce que le métier de dentiste, c'est vraiment fatigant physiquement. Genre, on faut vraiment être... Enfin, pas sportif, mais... Enfin, voilà, quoi. On peut très vite avoir mal au dos. Enfin, faut vraiment bien se tenir, avoir une bonne posture tout le temps. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on peut pas travailler 4 jours... Enfin, travailler 4 jours ou 5 jours par semaine, c'est compliqué quand même au niveau physique. Et puis... donc, souvent, la majorité des dentistes, ils travaillent 2-3 jours par semaine. Enfin, 3-4, j'ai vu.
3-4, ouais, 3-4.
Voilà. Donc, c'est vrai que ça, c'est quand même... important à prendre en compte. Et donc, moi, j'avais pris dentaire parce que je trouvais que c'était sympa, le côté manuel, le côté un peu connaissance du matériau. Mm-hmm. On a pas mal de cours de biomatériaux pour bien connaître ce qu'on met en bouche, quelles sont les propriétés, dans quel cas on peut les utiliser. Et oui, la qualité de vie, elle est quand même à prendre en compte parce que bah, on travaille pas tant que, enfin, on travaille moins que d'autres métiers, on gagne pas mal. Après, il faut aussi comprendre qu'on gagne pas mal parce que on doit payer pas mal de choses. Par exemple, le matériel dentaire, ça coûte extrêmement cher. Un cabinet, si on veut ouvrir un cabinet, c'est vraiment... Enfin, il faut vraiment avoir beaucoup d'argent ou s'associer à plusieurs. Enfin, voilà, c'est vraiment un réel investissement. Et on a aussi, par exemple, des frais de prothésiste à prendre en compte, des frais d'assistant dentaire, de secrétariat, tout ça. Et on n'a pas forcément un cabinet de médecin libéral. Enfin, on a besoin d'un secrétaire, mais on n'a pas besoin d'autant de personnes que dans un cabinet dentaire. Quoi.
Juste pour donner une idée, le siège, enfin le fauteuil sur lequel on s'assoit, c'est pas en dessous de 30 000 balles.
Ouais. Ah ouais.
Oui. La radio, 60
000. Attends, mais pourquoi ? Parce qu'il faut.
En fait, le fauteuil, il est relié à ce qu'on appelle un unit. Et unit, c'est où on met toutes les contre-angles, les turbines et les fraises pour traiter. Et donc l'ensemble, ça peut coûter 30 000 balles facilement. La radio, 60 000 balles. Les appareils de stérilisation du matériel, 5 000. Et tous les frais que Fayrouz a dit. Donc ça monte très très vite et il faut que tu sois rentable.
Ok, très bien. On se retrouve après la pub ?
On se retrouve après la pub.
Les fêtes de Noël approchent et vous ne savez toujours pas quoi mettre sous le sapin ? Ne vous en faites pas, on a la solution. Les Kangistars, les peluches pour quand vous en pouvez plus. Les Kangistars, c'est 3 peluches à l'effigie de vos philosophes préférés. Descartes, Claude Bernard, Canguilhem. Nos peluches seront toujours là pour vous réconforter.
Ceci n'est pas un dispositif médical. N'en parlez pas à votre pharmacien. Avoir du retard en SHS comporte des risques. Soyez prudent. Pour plus d'informations, venez nous voir au bureau de là-dessus au 45 rue des Saint-Pères, 75006. Ceci n'est pas une réelle offre commerciale. Ne soyez pas débiles.
Moi, je vais faire une dédicace à Lina, qui va me prouver par son classement du S1 que tout est possible. C'est pas parce qu'on arrive 800e au S1 que c'est pas possible d'aller en odonto.
Dédicace au coiffeur de Gabriel, qui l'a bien dégradé le crâne.
Haha, c'était vraiment trop marrant, Axel, tu trouves pas ?
Haha, bon allez, Baptiste, un peu de sérieux.
Allez, moi, il y a une P1 qui est venue me voir et tout. Elle voulait savoir comment ça se passe des études en dentaire. Est-ce que genre il y a un internat, un externat, c'est quoi exactement les modalités quoi?
Alors, ça se passe comme en médecine, donc on a des années précliniques. La deuxième et troisième année, on va avoir, à partir du deuxième semestre de deuxième année, des stages à l'hôpital une demi-journée par semaine. Et ensuite, quatrième, cinquième, sixième année, c'est l'externat. Donc nous, c'est 2 jours pleins à l'hôpital, pas comme en médecine, c'est tous les jours, mais une demi-journée. Voilà, et à côté, il y a des cours forcément. Après, du coup, il y a un internat qui n'est pas obligatoire et on peut le passer 2 fois. Généralement, il se passe en fin de cinquième année. Donc, en fin de cinquième année, tu peux passer le concours d'internat. Actuellement, il y a 3 spécialités. Donc, on a l'orthodontie, la chirurgie orale et la médecine bucco-dentaire. Et du coup, après, donc, l'internat, c'est 3 à 4 ans. Donc, 4 ans pour chirurgie orale et les deux autres, c'est 3 ans. Donc, il y a une possibilité. Et ensuite, si tu passes le concours d'internat, mais que tu n'as pas eu ce que tu voulais, tu te dis, c'est pas grave, je finis ma 6e année, je fais mon cycle court et je finis chirurgien-dentiste. Et après, c'est tout aussi possible de se spécialiser avec des DU, donc diplôme universitaire. Okay. Donc, vraiment, il n'y a pas de souci. Si, par exemple, on adore la chirurgie, donc les avulsions et tout, mais qu'on n'a pas pu passer le concours de l'internat, il y a des DU pour ça et il n'y a aucun frein.
Voilà. Ok. Et vous savez un peu ce que vous voudriez faire?
À l'origine, je voulais faire l'internat, je voulais faire chirurgie. Là, c'est toujours une possibilité, c'est juste que, en soi, comme il y a des DU aussi, et que là, ils sont en train de faire une réforme, peut-être que... Honnêtement, là, c'est encore un peu flou pour nous. En plus, on vient de commencer la clinique. Donc, ça nous fait vraiment prendre conscience de ce que c'est être dentiste. Et donc, ça va, au fur et à mesure, ça va quand même plus nous aiguiller sur ce qu'on veut vraiment faire. Parce que là, on touche un peu à tout, mais au fur et à mesure, on va commencer à préférer une certaine spé. Et donc, je pense que c'est cette spé-là qu'on va préférer. Donc, on verra. On a encore un peu de temps pour dessiner.
Ok. En fait, quand on fait l'internat, du coup, on est spécialisé. C'est comme un peu les médecins qui font l'internat. Donc, ça veut dire que, par exemple, si tu fais l'internat d'ortho, tu peux faire ortho, mais toute ta vie. Enfin, tu ne pourras jamais refaire une carie. Et donc, pareil, si tu fais de l'internat de chirurgie, tu vas faire de la chirurgie toute ta vie. Donc, ce n'est pas que les dents de sagesse. Hein. Ils font aussi, par exemple, tout ce qui est résection de cancer. Ils font des biopsies, tout ça. Mais tu ne pourras pas être un dentiste omnipraticien. En fait, l'avantage des diplômes universitaires, c'est que, par exemple, tu peux faire un diplôme universitaire en ortho et donc tu pourras poser des bagues dans des cases simples, mais tu pourras continuer à faire des caries parce que tu n'es pas spécialisé qu'en ortho, tu n'as pas fait l'internat que d'ortho. Donc ça, c'est un avantage des DU.
Okay. Genre, est-ce qu'en stage, donc là en quatrième année, vous êtes déjà très dans la pratique et vous pratiquez vous-même
Oui. En fait, alors l'externat de dentaire, c'est très différent de médecine. En fait, nous, on est dans un seul service. Donc, dans notre externat, on sera que dans un seul service. Et en fait, on prend en charge nos propres patients. En fait, c'est comme si on était en libéral. Mais en gros, pour vous donner une idée, un service d'odontologie, c'est un gros open space. Ou bien, un open space où il y a plein de box. Okay. Et chaque box est occupé par un binôme d'externes. Donc moi, par exemple, dans mon hôpital, c'est un binôme de 4e et 6e année. Donc je suis avec un 6e année. Et du coup, on prend en charge nos patients de A à Z. Ils viennent, ils ont un problème. On fait un plan de traitement. On fait une synthèse diagnostique. On présente au professeur. Il nous dit, vous allez faire ça, ça, ça. On va plutôt faire ça. Mais les soins, pratiquement, on fait tout. Bon, sauf poser un implant, tout ça. Parce que bon, voilà. Mais... faire des caries, des tartrages, extraire une dent, un suivi parodontal, c'est nous, on fait tout. Après, on est quand même suivi par des professeurs. À chaque geste qu'on fait, le professeur vient vérifier si c'est bien fait, nous donner des conseils et tout. Donc, on n'est pas non plus jeté...
Vous n'êtes pas en roue libre.
Non. heureusement pour nous et pour les patients, surtout. voilà. Mais c'est très rapide. Enfin, moi, ma première anesthésie, c'était sur un patient. Je n'avais jamais fait d'anesthésie.
Et tu te sentais prêt, genre ?
Non, mais il m'a dit pique là, j'ai piqué, ça a bien marché. Voilà. Il m'a dit ah, je sens que c'est engourdi. Ok, super, ça a bien marché. Mais oui, enfin, là du coup on pratique et du coup on a des grosses responsabilités dès le début de l'externat. Et le saut entre la 3e et 4e année, c'est pas forcément évident. Il faut savoir replacer ses cours dans un contexte clinique et c'est pas facile du tout.
Est-ce que les patients, du coup, ils peuvent avoir peur du fait que ça va être des étudiants qui vont les soigner et tout ?
Après, quand ils arrivent, ils doivent signer un consentement éclairé. On leur explique qu'on n'est pas encore dentiste, qu'on est des étudiants, donc qu'on va devenir dentiste, on travaille sous la supervision des professeurs, que ce n'est pas les professeurs qui vont faire les gestes, mais ils vont nous accompagner tout le long. Et à chaque fois, ils vont vérifier. Et en fait, il y a des patients qui ne vont pas forcément accepter ça. Ça arrive, je pense. Après, il y a des patients aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a des patients qui viennent, qui pourraient être suivis à l'extérieur, dans un cabinet en ville, qui ont les moyens pour ça. Mais ils viennent parce qu'ils savent qu'il y a des professeurs qui sont assez renommés, enfin voilà, qui ont fait de la recherche ou quoi dans leur domaine. Et donc, ils recherchent aussi ça. Et après, il y a des patients aussi qui viennent parce qu'ils doivent être pris en charge à l'hôpital parce qu'ils ont plein de pathologies. Et après, il y a d'autres cas. Mais dans tous les cas, ils le savent et ils ont toujours la possibilité de refuser. Oui, ça peut freiner certaines personnes, ça, c'est sûr.
C'était quoi le truc le plus stylé que vous avez fait ?
Alors, c'était ma première chirurgie complexe. Je devais. Alors, donc c'était une dent de sagesse qui était semi-incluse. Donc la moitié était encore dans l'os, la moitié était sortie. Donc j'ai dû faire un lambeau, donc c'est-à-dire prendre la gencive, la retirer avec un scalpel, enfin ou bistouri, merci. Et du coup, voilà, c'est ça. Et du coup, j'ai dû enlever de l'os, j'ai dû séparer des racines et enlever la dent. Ça a duré bien 2 heures, mais c'était cool.
Voilà. T'as gardé la dent en trophée ?
Non, parce que sinon, déjà, ça fait trop de dents. Et puis, les dents ne sont pas forcément toujours en bon état. Voilà, donc c'est un peu dégueu. Mais,
en voilà. Poudre, du coup.
Bah, oui, déjà, en plus, quand tu la sépares, elle est toute... Enfin, voilà, quoi. Donc, bon. Au début, je vais garder. Après, je suis en mode, mais là, si je garde, je vais pas m'en sortir. Là, ça sert à rien. Donc, j'ai commencé à... Oui, voilà, c'est macabre un peu. Donc, bon, j'ai décidé de jeter. Et... Après, si les patients veulent la garder, bon, je la laisse pour eux. Et puis, voilà.
Est-ce que, du coup... On devient parano de son hygiène dentaire quand on est en odonto. Est-ce que on check ses dents 8 fois par jour pour voir si c'est propre
Alors, en dentaire, on nous parle beaucoup d'hygiène, forcément. Bon, voilà, logique. On nous introduit les brossettes interdentaires. Bon, je ne sais pas si vous connaissez.
Pas du tout.
D'accord. il faut. Alors, en gros...
C'est du fil dentaire, genre ?
Non, justement. Okay. Le fil dentaire, ce n'est pas assez efficace. Donc, vous taffez un brossette interdentaire, vous allez voir ce que c'est. C'est des petites brossettes que vous passez entre les dents. Et en fait, voilà. Du coup, ça enlève bien toute la plaque et tout. Et en fait, on pense que ça, c'est que pour les gens qui ont des maladies de gencives, mais c'est pour tout le monde. Ouais. Et du coup, bah, avant, je ne faisais pas ça. Et maintenant, depuis septembre, là, tous les soirs. Il y a vraiment tous les soirs. Et je regarde bien. Et chez moi, j'ai un miroir de bouche. Genre des trucs. Et je regarde bien ici parce que... Mais vraiment, je regarde s'il y a quelques tâches. Moi, je suis parano. Genre, j'ai jamais eu de carie de ma vie et je ne veux pas en avoir, tu vois. Donc, je regarde s'il y a quelques tâches. Une fois, il y a eu une tâche. Et j'ai cru que c'était une carie, mais en fait, c'était juste un truc qui s'est coincé, qui n'arrivait pas à se retirer. Mais moi, perso, je fais gaffe énormément.
Mais t'étais déjà comme ça avant ?
Non, pas du tout. Avant, vraiment, le fil, je ne le passais pas. Je me brossais les dents de manière hasardeuse. Maintenant, vraiment, je fais une brosse à dents manuelle d'une marque bon, que je ne vais pas citer, mais qui est faite pour un certain mouvement, tu vois. Après ça, je ne l'ai pas acheté. On nous l'a offert par la fac.
Ok. Voilà. Rattrape-toi.
Voilà, c'est ça.
Déjà, à partir du moment où tu as un miroir pour check derrière tes dents, et que c'est quotidien.
On a le matos, pourquoi s'en priver ?
Après, à la fac, du coup, on a des ED comme ça, où en pédant, on en a un. Déjà, ils nous donnent des brosses à dents et des brossettes. Et donc, c'est vrai que bah, du coup, ça nous encourage à le faire. Et en fait, c'est vrai que nous, du coup, on demande à nos patients certaines choses. On leur demande, par exemple, de passer les brossettes et tout. Et c'est vrai que si nous, on ne le fait pas, en fait, on ne comprend pas vraiment ce que c'est, quoi. Donc, ça nous encourage à le faire. Et en vrai, c'est nécessaire pour l'hygiène dentaire, pour bien nettoyer toutes les surfaces. Donc, oui. Après, je dirais pas qu'on en devient parano. Enfin, en fait, c'est plus que comme on comprend, on sait quoi faire. Et voilà, juste comme on a une meilleure connaissance, ça nous permet de savoir quoi faire si on saigne des gencives ou quoi.
Ouais, est-ce que au cours de vos stages et tout, vous avez une anecdote un peu marrante ?
Il faut que je réfléchisse là. Attends.
Si vous pensez à un truc comme ça.
Oui, ok, c'est bon.
Après, c'est toi qui passe. Hein.
Alors, le mec a sorti son portable. J'avais encore la pince sur la dent. Et vraiment, il a pris son extraction de dent en snap.
Non.
Genre, mais si. Et du coup, bon, j'étais pas sur la vidéo, mais ça m'a fait beaucoup rire. Mais vas-y, je suis resté professionnel. J'ai extrait la dent. Il m'a dit quoi ? Il me dit rapproche-le de la caméra. Mais j'étais en mode, mais non, mais stop là, ça va. Genre. Et du coup, bah, j'ai écouté le patient. Je me suis dit, bon, ça va, c'est pas non plus des deux. Enfin, je peux le faire. C'est drôle. Et du coup, voilà. Donc, il s'est filmé en pleine chirurgie. Voilà.
Ok. Je suis un peu n'importe quoi là.
Non, juste le seul truc, c'est que quand le patient il t'appelle docteur, là, t'es en mode ah, ouais, c'est une maître du monde, genre. T'es vraiment une maître du monde.
Et bien sûr, tu ne le reprends pas. Oui, je suis docteur, en effet.
Attends, j'ai pas très bien entendu en fait. Répétez.
Bah, moi, on leur dit qu'on est étudiant, mais des fois, par exemple, je suis aussi en monoclinique de parodontologie. Et du coup, là, c'était des gens qui étaient en DU. De paro, donc eux ils sont docteurs, juste ils font des formations en plus, et du coup c'était un docteur qui suivait une patiente, et il m'a demandé si je pouvais reprendre le suivi, parce que là il n'y avait plus grand chose à faire, il n'y avait que quelques suivis parodontales à faire, et la patiente elle m'a dit, et du coup vous êtes le docteur? Et moi j'étais en mode dans ma tête, est-ce que je reprends et je lui dis je suis pas docteur, je suis étudiant, ou bien est-ce que je flex et je dis mon nom de famille? Du coup j'ai dit bah docteur Ben Salem.
Voilà. J'assume.
Bah oui, écoute, voilà.
Qu'est-ce que vous auriez à dire à un P1 qui hésite entre médecine et odonto et qui va arriver au deuxième semestre là bientôt ?
Et en fait, je pense qu'il freine les gens à faire odonto, c'est que les dents. C'est rien, t'apprends rien, enfin, c'est pas grand-chose. Alors que pas du tout. Quand tu soignes quelqu'un, c'est pas juste ses dents, c'est le patient lui-même. Donc il faut connaître, par exemple, bon, là, on a beaucoup de cours sur les différentes pathologies des différents systèmes circulatoires, respiratoires, enfin tout ça. Et on apprend beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est très intéressant de mettre en lien la santé dans sa globalité avec les soins bucco-dentaires. Et il y a beaucoup, beaucoup de disciplines en dentaire. Enfin, je ne vais pas tous les citer, mais il y a l'endodontie, la parodontologie, l'orthodontie, la chirurgie, la pédodontie, la prothèse. Enfin, voilà. Non, mais là, je crois que je les ai tous dit, là. Mais enfin, pour une bouche, ça fait beaucoup. Mais en fait, c'est qu'il y a une telle expertise dans le domaine que quand même, quand tu te spécialises, il y a quand même beaucoup de... T'as un champ de liberté d'actes à faire qui est énorme. Et on ne s'en rend pas compte, et c'est normal. Même nous, là, on est en quatrième année, on n'a pas encore fini de savoir ce qu'il nous reste à apprendre, quoi.
Et aussi, par rapport aux dents, il y a pas mal de maladies qui peuvent avoir des répercussions bucco-dentaires. Et il y a aussi un état dentaire qui peut avoir des répercussions sur des maladies d'autres organes, quoi. Donc,
bah, pour donner des exemples, par exemple, un patient qui va souffrir d'une leucémie, il va avoir les gencives gonflées à mort. Et ça, bah, justement, tu vas essayer de comprendre pourquoi c'est gonflé. Par exemple, tu vas voir, il a pas beaucoup de plaques. Enfin, pourquoi c'est gonflé, il y a pas de raison. Et là, hop, là, tu lui prescris un hémogramme. Et là, tu vois que, hop là, tel nombre de cellules, il y en a beaucoup. Et là, tu te dis, ah, bah, il y a peut-être un truc et tout. Donc, des fois, tu peux diagnostiquer certaines maladies. Genre, le diabète, ça arrive très souvent que ce soit le dentiste qui diagnostique un diabète. Parce que... je sais pas, il a une maladie parodontale, il se brosse très bien les dents, ça cicatrise pas, on comprend pas pourquoi. Là, on fait, bon, bah, c'est très bizarre, on va vous prescrire une hémoglobine glycée, hop là, on voit qu'il est à 9. Ah bah là, vous êtes diabétique. Donc, enfin, voilà.
Ok, donc en fait, c'est pas un domaine qui est si enfermant que ça.
Non, pas du tout.
Il y a plein de choses à faire.
Ouais.
Ok, bon, bah, merci beaucoup.
Bah, perfecto. Merci.
Merci beaucoup d'avoir écouté notre deuxième épisode du PUPS. Nous, on s'est bien marrés avec Férouz, Mohamed et Baptiste. J'espère que vous aussi. Et à très vite pour la présentation d'une nouvelle filière.
PUPS.